Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que femme, de devenir mère ?
Je crois que ça m'a apporté un peu tout, en fait.
C'est
mais,
beaucoup, hein.
Mais sans avoir eu l'espoir d'avoir tout ça, tu vois, donc sans pression. C'est-à-dire que juste, c'est arrivé. Juste, j'ai reçu ça comme des cadeaux et ça m'a, mon conjoint m'a permis de prendre le temps de maturer tout ça, tu vois. Ben, vraiment, ce que ça a changé, c'est que je suis devenue une personne qui s'écoute, qui arrête de faire en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres, qui fait en fonction de ce qui me fait plaisir, qui a appris à dire non, qui se lance dans l'inconfort. Ça m'a apporté de me découvrir en fait des compétences que je ne pensais pas avoir.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Pauline, salut.
Salut.
Bienvenue dans Histoire de Daronne.
Merci.
Pauline, tu m'as envoyé un mail il y a un petit moment de ça. En m'expliquant, mais tu vas peut-être m'expliquer pourquoi, en me précisant ta profession,
oui.
T'es neuropsychologue.
Absolument.
Et en m'expliquant que globalement tu voulais pas trop d'enfants, si je me trompe pas.
Hein, c'est bien ça.
Et que en devenant maman, alors tu m'as expliqué comment en voulant pas trop d'enfants t'as fini par devenir maman, parce que bon, il y a quand même des moyens de pas y arriver.
Absolument.
Ou de finir par ne pas devenir maman. Et qu'en devenant maman, tu écris même, je crois, je suis née une deuxième fois, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je suis renée.
C'est ça. Je suis vraiment née une seconde fois.
Est-ce que t'as appelé ton enfant René?
Absolument pas. Non, le pauvre. Enfin, pisse à tous les René.
Pas de jugement pour les René. Pas de problème. René.
Mon
Big up Céline, si tu nous écoutes. Céline, Dion n'écoute pas ce podcast, je crois.
Arrête, si ça se trouve, elle va écouter.
Putain, j'espère.
Oh, la classe.
Céline, tu viens quand tu veux pour me parler de ta maternité, avec grand plaisir. Donc ouais, Pauline, pour expliquer vraiment en genre 2-3 minutes, de quoi tu as envie de nous parler là dans cet épisode ?
Bah en fait, je t'ai contactée suite à l'annonce que tu avais faite sur ton podcast en disant « Bon, j'adore parler de tout ce que vous vivez ». J'ai beaucoup de messages sur du vécu plutôt négatif.
Oui.
Et tu disais, j'aimerais bien aussi pouvoir véhiculer quelque chose de positif autour de la maternité.
Et pouvoir balancer en tout cas.
En tout cas, ouais, c'est ça, c'est pouvoir avoir un peu les deux sons de cloche et pas que véhiculer du mood un petit peu difficile à écouter. Et je me suis dit, moi pour le coup, mon expérience, elle est hyper positive et elle est au-delà de positive puisqu'effectivement, je suis devenue une personne autre depuis que je suis maman. Et je me suis dit, ça peut être aussi intéressant de partager avec toi cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je t'ai contactée.
Et ça m'intéressait de t'avoir parce que je me suis dit, je crois aussi qu'il peut y avoir beaucoup de masques, tu sais, de la part des jeunes mamans notamment et des mamans autour de le besoin d'être une bonne maman,
ouais.
D'avoir vécu une bonne maternité, etc., qui parfois peut être un peu aussi dissocié d'une vraie expérience. Et donc, je me suis dit, c'est cool aussi que tu viennes parce que j'imagine, j'espère que tu as un peu de recul sur
en
tant que praticienne.
Non, mais c'est un vrai élément aussi, hein, tu vois, d'être psychologue pour enfants, parce que je vois surtout des enfants, et j'accompagne les parents, hein, c'est clairement mon job, et de devenir maman, ben en fait t'as une pression, tu pourrais avoir une pression de fou, tu vois, de dire bah en fait j'accompagne des familles pour faire correctement entre guillemets, si moi à côté je fais n'importe quoi, enfin c'est vraiment du charlatanisme, tu vois. Et donc du coup c'est vrai que ça peut rajouter un peu une pression d'avoir ce job là et de devenir maman, mais en fait pas de, enfin
tu vois ça comme du charlatanisme ou alors comme juste un chemin de, enfin un chemin d'expérience finalement. Et j'imagine à quel point en plus en tant que personne extérieure t'es beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple de pouvoir constater ce qui se passe dans des familles ou dans des comportements de parents plutôt que de regarder ton propre miroir, quoi. C'est pas fastoche.
Non, je dis charlatanisme, ça me fait marrer, mais tu sais, c'est quand on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais pour le coup, moi, je suis pas la même professionnelle avant d'être maman et après être devenue maman. Et je suis pas la même femme non plus. Oui. Et donc, c'est, bon, ça, je crois que c'est pour tout le monde. Mais le fait d'être dans ce domaine-là fait que ça me fait être encore une autre professionnelle. J'espère plus qualitatif.
Ouais. Mais je crois que pour les futurs parents qui nous écoutent ou peut-être les gens qui veulent devenir parents un jour, c'est vrai qu'on on dit souvent, enfin tu verras, ta vie elle est plus pareille qu'avant. Et tu vois, c'est marrant parce que je suis allé interviewer Justine Dupont qui est surfeuse professionnelle, tu vois, qui est enceinte jusqu'au cou là, qui accouche en très très bientôt en février, je crois, et qui est en fait. Je lui disais, bah, profitez, en fait, tu vois, de ces moments, parce que, en fait, votre vie d'après, elle est plus du tout. Et c'était là, oh, ça va, je suis... les frérots, vraiment.
Non, mais, tu sais, ça, c'est vraiment l'adage de, t'as des principes avant d'être parent, et puis après, t'es juste parent. Mais ça, ça, je crois que ça se vérifie pour tout le monde, hein. Peu importe que l'expérience soit positive ou un peu plus difficile.
Ouais. Et puis, c'est surtout que j'ai un peu l'impression que c'est pas un truc que tu peux anticiper, de toute façon, parce que c'est un tel raz-de-marée dans la gueule, en fait, que, et ça veut, quand je dis raz-de-marée, ça veut rien dire, en fait. Ouais. C'est juste, ce sera votre raz-de-marée à vous. Moi, je sais le raz-de-marée que ça a été pour moi. J'ai vu plein de gens, ça a été des raz-de-marée à chaque fois différents, mais en tout cas, a priori, c'est un raz-de-marée, quoi.
Ah, bah, je vois pas comment ça peut être autrement. Franchement.
Bah, il y a des gens pour qui. Ouais.
Ça change tout. Ça change tout. Ça change ta dynamique de vie, quoi qu'il arrive. Mmh. Que tu l'intègres et que tu changes pas ta vie ou que tu continues ta vie à nous, avec une nouvelle personne en l'orientant autour de cette personne, tout est différent, en fait. C'est fou, hein. Non, mais moi, ça m'émerveille à chaque instant, de toute façon.
Qu'est-ce qui t'a... En fait, je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu travailles depuis longtemps avec des enfants et avec des parents? Ça a toujours été ton cœur de métier, entre guillemets, t'es psy depuis... T'as toujours été psy, pour le coup.
Ouais, alors j'ai
T'as quel âge ?
Alors, j'ai 35 ans. Je sais même plus quel âge. J'ai 35.
À peu près, quoi.
J'ai 35, ouais, ça fait presque 10 ans que je suis diplômée. Et non, alors, mais c'est vraiment le même parcours que ma réflexion personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mes études de neuropsy en me disant, je ne travaillerai jamais avec des enfants. Je n'aime pas les enfants. Alors, pas dans le sens, je n'aime pas ces personnes-là.
Oui, tu leur jettes pas des cailloux ?
Non, je crois pas avoir déjà fait ça. Ou alors... J'ai oublié. Non, mais c'est plutôt... je n'ai pas de feeling avec ces petits êtres-là. Je ne suis pas à l'aise. Tu vois, je n'étais pas Madame Babysitting ou quoi que ce soit. Ce n'était pas quelque chose de fluide pour moi. Et donc, je me disais, bah, je serai neuropsy, mais pour les adultes.
Okay.
Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, tu vois, la neurologie, les troubles, machin, etc. Et c'est vrai qu'on le retrouve plutôt chez les adultes.
Donc, tu peux expliquer rapidement ce que c'est, la neuropsy ?
Ouais. La neuropsy, en fait, c'est un diplôme de psychologue, mais avec une spécialité sur le fonctionnement qu'on appelle cognitif, donc tout ce qui fonctionne à l'intérieur du cerveau. Et le but, c'est d'évaluer, avec des tests, avec des comportements, enfin, voire plein de méthodes, comment s'exprime le fonctionnement du cerveau. Donc c'est très multiple, hein, tu vois, ça peut être les troubles des apprentissages, ça peut être dans les troubles psychiatriques, il y a des troubles cognitifs, ça peut être dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer, tout ça, les AVC, les tumeurs cérébrales, enfin en fait on intervient dans tous les champs qui concernent la neurologie, sauf qu'on n'est pas médecin.
Oui, c'est ça, c'est qu'après à un moment donné il faut renvoyer vers un psychiatre.
Ouais, on reste psychologue avec une spécialité.
Ouais.
Voilà.
Ok, et donc c'est toi aussi qui... on va dire, qui prédiagnostique en tout cas les TDAH potentiels,
etc. Okay. Ouais,
d'accord.
Exactement.
Ça marche.
Donc moi, j'étais partie vraiment sur de l'adulte, parce que ça me bottait, parce que je trouvais ça très, tu sais, un peu enquête. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? On va aller chercher ça et tout. Et en fait, par la force des choses, au cours de mon premier job, que j'ai gardé 8 ans quand même, on m'a plus ou moins mise devant le fait accompli de « bon bah tu vas devoir voir des enfants », parce qu'on a beaucoup de demandes enfants. J'étais là « bah ouais, moi je suis pas formée, j'ai pas fait de stage là-dessus, allons-y ». Autant me dire que j'étais pas franchement à l'aise, parce que certes, il y a la relation avec les enfants, donc si t'as pas le feeling, c'est un petit peu chaud, Mais alors, le plus dur à gérer, c'est pas les enfants, c'est les parents.
Laisse-moi deviner. Tout à fait, non?
Ben oui, non, mais sauf que ça, tu... quand t'as pas cheminé dans ce sens-là au départ, ben, tu te prends ça en pleine face et tu dis oh waouh.
Mais alors, qu'est-ce que t'entends par là?
Ben, tu vois, quand tu vois un enfant, certes, tu vas l'évaluer, donc c'est lui que t'évalues, t'es en one-one avec lui. Mais par contre, quand tu veux expliquer, c'est pas à l'enfant. Alors, bien sûr que t'expliques à l'enfant, mais si tu veux qu'il y ait une vraie répercussion de ce que t'apportes avec ton expertise, ben, il faut que les parents s'en saisissent. Donc, il faut que tu leur expliques. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle de la psychoéducation, tu vois, leur expliquer quel est le trouble de leur enfant. Parce que c'est eux qui interviennent au quotidien, en fait. Donc, du coup, bah, c'est toute une diplomatie à avoir entre donner de l'info, pas les brusquer.
Pour laquelle tu t'étais pas formée jusque-là, en tout
pas
cas.
Pas du tout. Pas du tout.
Il y a un peu allé avec ta bite et ton couteau.
Mais
et...
c'est exactement ça. J'adore cette expression.
Ta vulve et ton couteau.
Exactement.
Bref, comme
non,
tu
mais
veux.
C'est exactement ça. Donc, du coup, je me suis retrouvée là-dedans en me disant oh waouh, c'est chaud, je suis très mal à l'aise. Oui, je suis mal à l'aise parce que c'est pas automatique, tu vois. C'est pas
qu'est-ce
fluide.
Qui faisait que c'était compliqué pour toi de gérer les parents, comme tu dis?
Tu touches à la chair de la chair, ok? Un adulte prend moins soin de lui qu'il ne prend soin de son enfant, de manière générale, hein, y a toujours des exceptions. Aller chercher un trouble chez un enfant, ça implique beaucoup de responsabilités et pour l'enfant et pour les parents, parce que c'est quoi son avenir avec ce trouble éventuel? Si minime qu'il soit, hein, des parents peuvent être effondrés parce que l'enfant a une dyslexie, tu vois. Donc, ça implique quelque chose qui peut encore chambouler la vie de cette famille. Et les parents, mais ça les... Ah, ça les angoisse. Ça les angoisse fort. Ils ont du mal à avoir de l'info. Ils ont du mal à savoir ce qui va se passer. Enfin, ça a un impact hyper important dans leur famille. Et du coup, bah, forcément, c'est comment dire, c'est une responsabilité aussi pour le thérapeute. Et bah, faut être un petit peu formé, quoi.
T'étais pas prête?
Pas du tout. Mais pas du tout.
T'as un exemple en particulier d'un truc qui t'a marqué au début, à tes débuts?
Ouais, bah, j'ai rencontré très tôt un petit garçon qui était placé en famille d'accueil, qui avait été abandonné, enfin pas abandonné, qui avait été placé parce que ses parents n'étaient pas en capacité de s'occuper de lui. Alors ça demande d'avoir un peu d'expertise sur l'émotion qu'il y a autour des enfants placés de l'ASE, qui venait avec des troubles du comportement, qui venait avec la personne qui l'entourait dans la famille d'accueil. Et là, il vient, en plus de son histoire personnelle hyper dure, bon, je passe les détails sur les pathologies des parents, qui vient avec des troubles qui impactent la relation qu'il y a dans la famille d'accueil et qui va peut-être avoir un retentissement sur est-ce qu'il va rester dans cette famille d'accueil. Là où il se sent instable, où il se sent aimé, etc. Tu vois. Et là, toi, t'arrives avec tes petits tests et tout, et tu dis ah ouais, il y a des troubles, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et là.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ah, le blanc, parce que t'as envie de l'aider, et en même temps, bah, t'es pas chez lui, et en même temps, tu travailles pas pour l'ASE. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué.
Ouais, ouais.
Et encore, c'était pas le parent. C'est-à-dire, tu vois, t'avais de l'affect, évidemment, t'avais de l'affection de cette personne pour ce petit garçon, mais c'était pas sa maman. Donc, enfin, il y avait un truc hyper difficile pour moi à gérer là-dedans, et je me suis dit, oh waouh, je me suis mise dans une situation là, que je n'ai pas choisie, mais qui était hyper difficile à gérer. Et donc, bon,
ça a dû renforcer ta croyance de les enfants, c'est vraiment pas pour moi.
Ouais, carrément. Et en même temps, en toute honnêteté, avec du recul, je pense que c'était aussi le truc, tu vois, qu'il fallait que j'expérimente, où là, il y avait plus d'affect. En fait, je pense que ce qui me faisait peur avec les enfants, c'est vraiment l'aspect affectif, tu vois. Plus que ce qu'il y a avec l'adulte, où c'est plus facile de garder la distance.
Tu veux dire de garder ta position de psy,
ouais.
C'est ça, tout en te mettant à distance et en même temps de quand même prendre, en tout cas de donner ou de récupérer de l'affection, de l'affect qu'il peut y avoir pour cet enfant, quoi.
Ouais, c'est vraiment qu'est-ce que ça crée d'avoir un enfant en face de toi qui est en détresse, en fait. Tu vois, qu'est-ce que ça résonne en toi? Et t'es là, ah ouais, mais ça, j'étais pas préparée. Tu vois, l'avantage de la neuropsychologie, je pense que c'est pas anodin que j'ai pris ça comme spécialité. T'as ton bureau, Tu sais, oui. T'es derrière ton bureau et t'as tes petits tests.
T'as tes petits tests.
C'est hyper rassurant parce que c'est les tests qui le disent, c'est pas toi.
C'est des cases à cocher, machin.
Ouais. Et en plus, moi, j'étais formée comme ça, tu vois. Donc, j'arrive avec ça.
Ah oui, t'es pas dans la relation au patient pour le coup.
T'es forcément dans la relation, mais c'est moins impliquant.
Ouais.
En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je sais pas si tout le monde le vit comme ça. Plus maintenant. C'est ce que je, comme ça que je le vivais. Mais c'était hyper rassurant, tu vois. Mais là, te retrouver face à un petit être qui est juste entier. Avec tout son bagage, pour son si jeune âge, son bagage psychologique, t'es là, oh purée, ça résonne fort, tu vois, même si t'avais pas de lien particulier avec les enfants de base.
Il y a autre chose aussi dont je voulais te parler, c'est à quel point les parents se retrouvent eux-mêmes dans des postures à finir par se faire diagnostiquer, parce qu'ils n'avaient pas conscience, et par l'intermédiaire de leur gamin, finissent par se dire, oh putain, mais en fait, il y a un miroir qui se joue là.
Mais ça c'est constant, hein. C'est constant, tu vois, quand t'es en libéral et que tu reçois des enfants pour des TDAH, typiquement pour des diagnostics de TDAH.
TDAH, c'est
trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est assez fréquent qu'ensuite on récupère le parent, tu sais, pendant les entretiens où on questionne « Ah mais attends, mais ça c'est moi ? Mais moi je fais pareil ? Non mais moi je suis pareil ? Bah écoutez, on en reparlera peut-être une prochaine fois, on va se revoir. » Mais oui, ça c'est souvent. Surtout dans les troubles des apprentissages, on sait qu'il y a une hérédité. Donc,
Donc, bon, si j'ai bien compris, t'étais pas parti pour travailler avec des enfants.
Non.
Et disons que ça allait bien avec ton projet de non-maternité, en tout cas.
Absolument.
C'était, ça n'a jamais été pour toi un sujet de devenir mère.
Mais non. Très bizarre. Pourtant, très bizarre dans le sens où, tu vois, je suis fille unique. Chose que j'ai absolument très très bien vécue, vraiment. Okay. C'était j'ai jamais eu de manque, tu vois, autour de ça.
La solitude.
Mais ouais.
Quelle joie.
Mais en vrai.
Pardon.
Mais je m'en rends compte maintenant.
Mon frère et mes sœurs qui m'écoutent. Franchement, moi je kiffais être tout seul.
Ouais. Bah moi, tu vois, j'avais plein de solitude, mais finalement pas tant. Mais bref, j'ai été élevée dans une famille hyper bienveillante, hyper aimante. Enfin, tu vois, j'avais pas de questionnement particulier sur les relations enfants, etc. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si je disais tout le temps, j'aurais pas d'enfants, je suis trop égoïste. Alors, est-ce que c'est ce que je ressentais ou est-ce que c'est ce qu'on véhicule, tu sais, sur les enfants uniques, souvent, ouais, quand ils sont uniques ils sont un peu égoïstes, etc. J'en sais rien. Mais du coup, c'était pas une option pour moi d'avoir des enfants parce que je préférais m'occuper de moi, quoi.
Et malgré le fait que t'aies été élevé dans... Ouais, je comprends, vraiment. Et malgré le fait que t'aies été élevé dans une famille aimante et tout, tu t'es pas dit, ok, j'ai été... Parce que très souvent aussi, il y a un truc où je me suis un peu fait bolos pendant ma vie d'enfant. J'ai pas envie de reproduire ça, et peut-être même que je pourrais le reproduire sans même le faire exprès, quoi. Ouais. Là, pour le coup, toi, t'étais dans un environnement cool.
Ah ouais,
tu t'es pas dit, tiens, je vais recréer ça.
Mais pas du tout.
Ok.
Non, mais pas du tout, mais pourtant... Encore une fois, là, avec du recul, je me rends compte de cette chance que j'ai eue d'être hyper sécurisée par mes parents, ce qui me permet d'être quelqu'un d'assez naïf. Alors, il y en a qui prennent ça pour une qualité, d'autres pour un défaut. Mais je suis extrêmement naïve. Tout est beau, tout est rose. Je suis très optimiste. Un peu trop, quand même, parfois. Mais du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi que...
Un peu trop ? Sérieux ?
Bah, il y en a qui trouvent que c'est quand même un peu...
Non, mais il y en a qui, on s'en fout de il y en a qui.
Ouais,
pour
mais
toi.
Je pense que parfois, ça a pu me mettre dans des situations un peu délicates. Mais bon, tu sais, passer un peu pour la concon, tu sais, qui a pas compris.
Ouais.
En vrai, je m'en fous. Hein.
Mais... Bah oui, c'est ça, on s'en fout.
Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être, j'ai jamais vraiment cherché pourquoi ça me tentait pas.
Ah, mais, t'as jamais réfléchi ?
Mais non.
Bah, enfin.
Non, mais attends, c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on réfléchit tout le temps.
Bah non, mais même après coup, tu vois, en te disant, tiens, c'est quand t'es venu le désir de maternité, tu t'es pas dit, t'as pas regardé un porte en arrière en me disant, bah, d'où ça vient ?
Non.
Ok. Même encore aujourd'hui.
Non, même encore aujourd'hui.
Même pour venir dans l'histoire de Daronne.
Mais même pas. Non, mais tu vois, soit je veux pas savoir, et du coup je cherche pas.
Ok.
Soit j'ai cherché, mais en fait j'ai pas trouvé de réponse évidente. C'était comme ça en fait. Je suis très comme ça. Tu sais, genre, la vie elle vient comme elle vient.
Oui.
Et c'est tout.
Ok.
Donc pour le coup, je m'étais pas posé la question et j'ai pas de réponse.
Et ben voilà. Si vous veniez chercher une réponse auprès de Pauline, c'est raté. Voilà.
Ne venez pas me voir.
D'accord. À quel moment a eu lieu ce déclic alors dans ta tête ? Parce que est-ce qu'il y a eu un déclic déjà ? Peut-être pas.
Un déclic, mais hyper instantané. Je suis très impulsive comme personne. Quand j'ai décidé un truc, c'est maintenant tout de suite. Okay. Donc, ça fait. Je vais essayer de ne pas dire de conneries, mais Ça doit faire 15 ans que je suis avec mon conjoint.
Ok.
Donc,
Ah oui, donc en plus, vous étiez. Jeune couple, quoi.
Exactement. Et un soir, on était à une soirée, je m'en rappellerai toujours. On s'en souvient très bien tous les deux. On était à une soirée.
Attends, avant que tu me racontes ça, c'était un sujet entre vous, cette histoire d'enfant ? Parce que quand vous vous êtes rencontrés à 20 ans, j'imagine qu'à un moment donné, la question se pose.
Ouais, mais posée très vaguement, tu vois, ou en déconnant, tu vois. Ouais, si un jour on a des enfants, ils s'appelleront ta et machin, tu vois.
Okay.
Mais pas du tout quelque chose de construit, pas un but commun prédéfini à l'avance et on va vers ça, tu vois, dans notre couple. On en a parlé, mais c'était pas un sujet.
Et toi, tu lui disais, moi c'est un nom. Jusque-là, en tout cas.
Ouais, moi, c'était plutôt... Franchement, j'avais pas tellement envie. C'est bien de se gérer que nous. C'est déjà pas mal, tu vois.
C'est déjà
un taf.
Pas mal de taf. Franchement.
Exactement.
Si tous les gens, avant de faire des enfants, ils se disaient, vas-y, viens, on se gère que nous, et puis après, on fait des enfants.
Ouais.
Maybe le monde tournerait mieux. Mais bon, c'est un autre podcast.
C'est ça.
Histoire de permis de faire des enfants. Voilà.
Oh, purée. On part pas dans ce débat du permis d'enfant, parce que c'est un peu sport. Mais non, mais si tu devais délivrer les permis d'avoir des enfants, t'imagines ?
Mais franchement, moi j'aurais bien aimé qu'on me teste.
Ouais ?
Sérieux.
Mais sauf que comme t'es pas la même personne avant et après.
C'est-à-dire ?
Ben, tu sais pas les compétences que t'auras en tant que parent quand l'enfant sera là.
Mais c'est pas ça, c'est que pour moi, il y a déjà une base à avoir que j'avais pas personnellement et que, en fait, j'ai fait payer à mes filles, sans le savoir bien sûr, inconsciemment, quand elles étaient plus petites.
Oh. Toute la responsabilité qu'on met sur les parents. Mais oui, mais...
Ouais, et tu vois, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait que, bon, bah ok, c'est leur chemin. Et en fait, moi-même, j'avais mes casseroles, mes propres parents. Eux-mêmes, ils avaient leurs casseroles de leurs propres parents, etc. Et puis, j'imagine qu'on a des casseroles transgénérationnelles qui remontent à très très loin, tu vois. Et je suis très à l'aise avec ça. Mais je crois que pendant tout un temps, j'étais vachement en culpabilité. Et surtout, en fait, j'étais pas conscient. Comme j'étais pas conscient...
Ah oui.
En fait, tu leur en fous plein la gueule. Et avec le recul, je me dis, bon, bah, en vrai, j'aurais bien aimé être plus... j'aurais bien aimé me faire tester, je sais pas. Mais en fait, juste, tu vois, qu'on te dise, bon, bah voilà, en fait, les... ça pourrait être un pitch de film, franchement.
vas-y, lance-toi.
Bah, en fait, on fait passer des tests à tous les individus et à tous les couples, donc individuellement et ensemble, pour... Voilà les compétences entre guillemets que vous avez pas, qui vous manquent, qui sont même pas des compétences, qui sont juste des trucs que t'as en toi, quoi. Ouais. Tu vois, sur l'amour de soi par exemple, putain, moi j'aurais bien aimé découvrir beaucoup plus tôt ce que c'était.
Ouais, mais est-ce que tu l'aurais exploré si t'avais pas eu d'enfant et si t'avais pas eu ces questionnements, tu vois?
Excellente question.
C'est pour ça que moi je pense que tout le monde a sa chance d'être parent, mais par contre il faut que ce soit accompagné pour ceux qui ont besoin.
Oui, et ça, pour le coup, c'est pas forcément... Et tu vois, même des gens qui ont vécu des trucs compliqués et durs dans l'histoire de Daron, l'histoire de Daron, ils sont pas accompagnés psychologiquement. Ils ont peut-être une séance, et après, ça dégage, ils sont pas suivis, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est dramatique, quoi, c'est très compliqué. Et même pour les parents pour qui tout va bien, en vrai, on devrait leur dire, les gars, let's go en thérapie.
Mais oui, mais moi, j'en vois des parents qui vont bien.
Bah
et c'est
oui,
cool.
Trop bien.
Tu vois.
Ouais.
Mais je les vois et je leur dis, bah, en fait, ce que vous faites, c'est trop cool.
Mmh.
Ben,
déjà, rien que ça, c'est incroyable.
Ouais, mais c'est trop bien. Mmh. Donc, non, moi, je suis pas pour le permis d'être parent, mais
j'entends.
Par contre, je suis pour l'accompagnement.
Donc, oui, alors, ce déclic, pardon.
Ouais, ce déclic, c'était hyper drôle. On était à un anniversaire et on était en train de danser, tous les deux. Alors, ce qui est assez rare parce que mon mec est pas très danse, tu vois. Et on se regarde et on se dit, viens, on fait un enfant.
Quoi?
Et les deux, on se regarde, on se dit, grave, on y va. Un mois après, j'étais enceinte.
Waouh.
Non, quand je te dis que je fais les trucs dans
Est-ce
l'immédiat...
Est-ce que Pauline a le temps, c'est un nom.
Ouais, je suis un petit peu speed. Mais non, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Tu vois, il n'y a pas eu de grandes discussions. On sera quoi comme parents? On va faire comment pour l'accueillir? Enfin, il y avait un contexte, hein, où on était en capacité d'accueillir un enfant aussi, tu vois. Mais on était hyper, hyper sur la même longueur d'onde. Juste, on s'est regardé, on a dit, viens, on le fait. Allez, go, on y va.
Incroyable. Ouais. Et vous en aviez jamais vraiment parlé auparavant d'un vrai désir, quoi?
Non. Très vaguement. Alors, si, je sais que mon conjoint, il lui a toujours voulu avoir des enfants.
Oui.
Mais c'était pas une condition sine qua non, tu vois. C'était pas un truc.
Il allait pas te quitter parce
pas
que toi,
tout.
T'en voulais pas spécialement.
Non.
Okay.
Non, parce que moi, j'étais plutôt claire dès le début. Mm. Non, visiblement pas si claire. Mais, mais non, ouais, c'était pas un sujet. C'était très au fil de l'eau, quoi.
Ok.
Mais c'était fou. Moi, on s'en rappelle très bien tous les deux de cette soirée. C'était très drôle.
C'est incroyable.
Ouais.
Et Et en fait, au-delà du... Ça devient d'où ? Je cherche à comprendre un petit peu ce qui se passe, tu vois, mais ça à quel moment ça te tombe dessus ? Et tu te dis, ok, c'est maintenant.
Eh ben, je pense que finalement, tu vois, le fait d'avoir commencé à travailler avec des enfants, c'est peut-être le truc qui m'a fait un déclic. Mais je pense que c'était... Tu vois, là, en discutant, je ne l'ai pas spécialement conscientisé avant, mais je me dis que... Je me mettais moi-même une barrière sur la relation que j'avais avec les enfants, la non-relation que j'avais, tu vois, le non-feeling que j'avais avec les enfants en consulte. Et quand j'ai commencé à expérimenter un peu plus, ben en fait, j'ai vu que ça passait. Et en fait, j'ai vu que finalement, je n'étais pas si nulle, tu vois, dans l'interaction avec les enfants. Et en fait, c'est cool, les enfants, finalement. Donc, bah, pourquoi pas, go.
Je trouve que ce qui est incroyable, et je crois qu'il faut le souligner, c'est qu'en fait, tu n'as pas eu un désir d'enfant, mais c'est que tu as eu le désir de devenir mère.
Ouais.
Et pour moi, c'est pas du tout la même chose.
Ouais, non, c'est clair.
C'est pas du tout la même expérience. Ouais. C'est-à-dire que t'avais le désir d'avoir une relation avec un enfant.
Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai jamais projeté quoi que ce soit comme attente sur mes enfants. Alors, on en projette toujours malgré soi. Enfin, je suis pas du tout irréprochable. Mais tu sais, on parle souvent du bébé rêvé, de la déception qu'on peut avoir quand ça arrive, parce que en fait, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Moi, je m'attendais à rien, en fait. J'avais pas d'attente vis-à-vis de cet enfant. J'avais juste une attente d'expérience. Et donc, j'ai pas d'attente particulière quand il est arrivé. Il est arrivé comme il est arrivé, quoi.
Ça me chamboule que tu me dises ça.
Ouais.
Ouais, vraiment. Et je trouve ça trop cool. Non, mais c'est trop bien que ce discours existe.
Ouais.
Parce que je trouve qu'on a trop tendance à... Et tu vois, moi-même, je l'ai fait dans cet ordre-là, tu vois. C'était un peu une liste de courses, tu vois.
Ouais.
Ok, on arrive à tel âge, ça fait autant d'années qu'on est dans la relation, il faut qu'on se marie, il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on ait une maison, machin. Et en fait, alors ok, pour la maison, ok, pour le mariage, mais en fait, les enfants, ça reste quand même des... Ouais. Tu vas faire un être humain, quoi, tu vois. Et je crois que si tu le fais en te disant, ok... C'est un check dans ma liste. Tu finis par le mettre au même niveau que tous les autres. Et bah, de ce fait-là, forcément, t'as pas la même relation, quoi.
Mais tu vois, je pense que vraiment, mon histoire familiale à moi fait que ça m'a permis de pas avoir d'attente. Parce que je fais effectivement...
C'est quoi ton histoire familiale ?
Ben, mon histoire familiale, c'est qu'il y a rien d'histoire. Il y a pas d'histoire familiale, tu vois.
Il y a pas,
c'est
que... t'as pas de problème.
Y a
c'est
pas
ça
de
que tu veux dire ?
Il y a pas de problème. Ça n'existe pas, ok ? Ou en tout cas, c'est des problèmes que je ne voyais pas étant petite. Mais en tout cas, j'ai été tellement élevée dans l'amour et dans la bienveillance que je projetais pas comme certains, bah moi j'ai vécu ça dans ma famille, je veux surtout pas reproduire telle chose ou je veux reproduire tel truc. En fait, juste c'était comme ça, tu vois, c'était une évidence.
T'avais pas d'objectif.
Non, j'avais pas d'objectif en étant devenant un parent. J'avais pas l'objectif d'être un parent de telle façon, de telle façon. Bon, alors ça c'était avant, quand même.
Ce que je voulais vous parler. C'est très bien, merci. Mais peut-être aussi que, tu vois, moi, je crois que je me rends compte que j'avais besoin de réparer beaucoup de choses à travers mes enfants.
Ouais.
Et en fait, en leur disant des trucs, de réparer moi-même les trucs qu'on m'a pas dit quand j'étais gamin, quoi. Bon, ça, je m'en rends compte depuis, on va dire, 5 ans, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, elles sont grandes. Donc, en vrai, j'aurais pu...
Mieux vaut tard que jamais.
Exactement. Mais en fait, c'est aussi pour ça que je suis trop content de faire ces podcasts, parce que ça permet de pouvoir véhiculer ça, cet apprentissage-là. Mais c'est quoi la différence, alors, entre ce que tu pensais que ce qui se passait avant et qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Ben, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que je suis devenue mère, quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas d'autres images plus claires. Ben non, après, en vrai, en devenant mère, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout anxieux. Je suis vraiment très, très à la va comme je te pousse, tu vois, comme ça arrive.
Cette expression.
Non, mais tu vois, je suis hyper désorganisée. Dans 2 heures, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, ça, c'était avant. Mais quand tu deviens maman, enfin, parent en général, tu as une charge mentale et tu as une anxiété qui arrive et qui est indissociable du fait de devenir parent. Parce que quelqu'un dépend de toi. Et du coup, d'avoir cette anxiété qui arrive, bah déjà, quand tu la connais pas, tu sais pas la gérer.
T'étais pas prête.
J'étais pas prête. Et en plus, ça fait que là, tu te rends compte de, ok, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Là où moi, j'envisageais pas de choses très factuelles dans l'avenir, ben là, j'ai envie que mes enfants ils vivent heureux. J'ai envie que mes enfants ils aillent vers ce vers quoi ils ont envie d'aller. Et ben ça fout une sacrée pression en fait. Et donc, ben ça fait être une autre personne, en mieux ou en moins bien, ou en pareil, mais en tout cas différente. Et ben ça, c'est ce qui m'a changé. Là où j'étais très détente avant, je suis venue un peu moins détente après, tout en étant une expérience archi positive. Et c'est notamment ce qui a chamboulé aussi mon entourage, parce que étant devenue une autre personne avec des anxiétés et des objectifs et des envies et des convictions, c'est ça que ça a pas mal changé dans ma vie de femme et professionnelle, ce qui est pas facile à gérer pour l'entourage.
Quand tu parles de l'entourage, c'est qui ?
Ben déjà mon conjoint.
Ouais. Lui, il était pas prêt ? Est-ce Alors, que tu changes comme
non,
ça ?
Non, bah pas du tout. Mais moi-même, j'étais pas prête à changer comme ça. Enfin, vraiment pas. Et ma famille aussi, tu vois, mon entourage familial, papa, ils ont dit « Oh, waouh, mais qui est cette personne ?»
C'est, quand tu parles d'anxiété, d'objectif, et je sais plus le dernier truc que tu as dit.
Oh, je sais plus.
Bon, bref. De quoi tu parles exactement ?
Ben, durant ma première grossesse, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée.
Tu peux nous dire, tu as combien d'enfants ?
Alors, j'ai deux enfants. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi et une petite fille qui a 2 ans et demi.
Okay.
Donc, pour ma première grossesse, alors, maxi super grossesse, tu sais, vraiment comme dans les films, hyper épanouissant.
Insupportable, quoi.
Absolument, la relou de la grossesse, tu vois. Mais tu vas voir, c'est génial.
J'adore être enceinte.
Mais de ouf, mais vraiment, tu
T'avais un glow de ouf, non ?
Mais de ouf.
Ouais, t'es insupportable.
Enfin, peut-être que j'étais pas très objective, mais... Je me sentais avoir un glow de ouf.
Oui, ouais, voilà. Il y a ça qui compte,
c'est finalement. Mais du coup, c'est là où j'ai commencé à vachement intellectualiser les choses, c'est-à-dire à aller chercher. Qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse ? Il en est à où dans son développement, dans mon ventre ? Est-ce que je veux allaiter ? Est-ce que je ne veux pas allaiter ? Autant te dire que c'était un sujet qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit quelques mois auparavant. Et là, c'est devenu un objectif. C'est-à-dire que j'allais allaiter.
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre-temps ?
Franchement, je sais pas, les hormones.
Ah ouais, tu crois ?
Non, je pense que les hormones est vraiment cette histoire de je vais être responsable, quelqu'un va dépendre de moi.
Est-ce qu'il y a une idée de pression sociale aussi derrière ?
Pas du tout.
Ok, pour le coup, t'es assez hermétique.
Alors, je suis pas hermétique, mais on a un entourage qui est suffisamment bienveillant pour qu'il y ait aucune... Il n'y a pas de diktat, tu vois.
Je parle des réseaux sociaux, ouais. Je parle pas forcément que de l'entourage proche.
Non.
Hein.
Bah alors, tu vas chercher où ton info ? Sur les réseaux sociaux. Donc, a priori, au bout d'un moment, t'es un peu matraqué, ça c'est clair.
Voire matrixé.
Ouais, aussi. Mais donc, oui, forcément, moi j'allais chercher mes infos en partie sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, j'ai commencé à vachement intellectualiser c'est quoi la parentalité ? Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. C'est quoi être bienveillant ? Je savais que ma ligne directrice, ce serait d'être bienveillante avec mes enfants.
C'est quoi être bienveillante ? C'est quand même génial cette question.
Mais ouais, c'est ça. C'est
je vais aller chercher sur les réseaux sociaux comment être bienveillante.
Non, mais tu vois, ce que j'ai vécu comme enfance, pour moi, c'était ça mon goal.
Ouais.
Vraiment. Juste ça. Alors, ça me paraissait juste ça. Je me rends compte que dans la vraie vie, c'est pas juste ça. C'est vraiment beaucoup plus. Dans le sens, c'est pas juste être comme on est et laisser la vie couler. Hein, d'accord ? Il y a quand même d'autres paramètres. Mais de tout bien faire. Tu vois, je me suis sentie dans la responsabilité de tout bien faire. Et ouais, d'être un peu une super maman, quoi. Pas pour les autres, mais pour moi. J'avais pas d'envie pour les autres. C'était vraiment pour peut-être me prouver des trucs. J'en sais rien.
J'ai l'impression.
Bah, il y a des chances, en tout cas.
En tout cas, j'ai... Souvent la sensation que c'est un vrai truc. On parlait juste avant l'enregistrement d'ego.
Ouais.
Pour le coup, j'ai souvent la sensation qu'il y a chez les mères et chez quelques pères beaucoup de besoin de venir s'identifier à un parent super parent quoi.
Ouais. En même temps, qui n'a pas envie d'être le meilleur des parents. Tu vois que tout le monde se dise oh waouh mais cette famille ils sont formidables, des super parents et tout ça, c'est quand t'as un peu la pression sociale externe. Mais à l'intérieur de soi, c'est se prouver des choses, tu vois, mais comme tu te prouverais que tu peux avoir un nouveau job, que tu pourrais changer de carrière et être performant dans ta carrière, tu vois, genre un peu un...
C'est quand même pas pareil parce qu'il y a quand même un enfant au bout du compte, hein.
Mais c'est pour ça que la dynamique n'est pas la même. Mais tu vois, vraiment en termes de retentissement juste perso.
Ouais.
Pas aux yeux des autres.
Okay.
Même si nous sommes des êtres sociaux, donc a priori il y a toujours quelqu'un autour, mais
ouais, mais je trouve ça bien aussi d'être capable de faire le distinguo entre ce que je veux vraiment pour moi, ce qui est important pour mon enfant, et en fait la liberté qui se trouve entre et de pouvoir s'autoriser à prendre cette liberté là en fait quand ça matche pas forcément, quoi.
Oh ouais, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi.
Ok.
Mais ouais, en tout cas je suis devenue du coup une personne avec des objectifs.
Perso. C'était quoi alors ton objectif ?
Alors très factuellement, allaiter mon enfant, clairement. Être suffisamment soutenante pour qu'il se développe comme il allait se développer, sans intervenir, tu vois, sans être intrusive. Essayer de faire bien, en fait, tu vois. C'était très vaste, mais c'était essayer de faire bien.
Et tu t'es fait une checklist?
Même pas.
Ok.
Mais c'est, ça devenait clair. Ouais, ça devenait vachement clair pour moi que c'était okay. ça. Et puis, on va pas se mentir, les hormones pendant la grossesse, elles sont là aussi pour préparer à devenir maman. Donc, le surfocus sur le bébé, il est pas là pour rien, ce surfocus.
C'est bien fait, hein. On est quand même des animaux incroyables. Hein.
T'as vu comment on a été créés hyper bien.
Pour faire en sorte que, que l'espèce survive, c'est
exactement,
pas mal. Exactement,
la préoccupation maternelle précoce. Mais non, mais
c'est un vrai truc.
C'est un vrai truc, ouais. Mm. C'est vraiment, ça c'est pour le coup, c'est prouvé. Et c'est ce qui fait qu'on n'abandonne pas nos enfants qui savent rien faire, a priori, dans leur berceau et qu'on s'en occupe pas.
Ok.
Mais du coup, moi, je
Donc, c'est pas de l'instinct maternel, parce qu'on parle souvent de ça. Ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt très hormonal pour le coup et faire en sorte que tu t'occupes de ton enfant, quoi.
Ouais, t'as vraiment un truc. Il y a un truc qu'on appelle pendant la grossesse la grossesse psychique. Ce que les papas n'ont pas.
Bah oui.
Parce qu'eux, ils n'ont pas tout ce tumulte d'hormones.
Moi, je l'entends dans l'histoire de darons. Hein, les darons qui laissent le train passer et qui font « Ah putain de merde, j'ai autant de mois de retard.
» Mais c'est chaud pour eux en même temps.
Bah ouais, faut... C'est
hyper dur.
Faut courir après.
Mais
pour récupérer le métro.
Ouais, et puis de là à toi de dire ce qui se passe dans ton corps quand t'es enceinte et pouvoir le partager sans être trop, tu vois, dans du flot de partage. Et en même temps, moi, je suis un peu une nana où... ce que je pense, ça me paraît tellement évident que je le dis pas toujours. J'ai l'impression que c'est une évidence. Et donc, je pense que ça,
même
c'est des
choses...
Même en tant
que psy.
Bah, bien sûr. Non, mais tu sais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. On va faire le top 10 des expressions là dans ce podcast. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment cette grossesse psychique. Elle est là pour essayer de se fermer aux autres infos et être focus sur cet enfant parce que c'est ça la priorité. Parce qu'il dépend de nous et sa survie dépend de nous, tu vois. Et moi, j'étais à fond là-dedans, mais à fond, à fond, à fond.
Et ton mec, pour le coup, il suivait ?
Alors ouais, alors, hyper impliqué. C'est vraiment un mec qui est... quand il fait les trucs, tu vois, vraiment. Donc hyper soutenant, il venait à tous les cours de prépa, voilà. Mais pas avec la même conviction que moi. Moi, ça devenait viscéral et j'étais même pas encore maman, tu vois. Enfin si, j'étais maman, mais d'un bébé qui était dans mon ventre. Mais
est-ce
très viscéral.
Tu avais la sensation que quelque part, il faisait le truc, mais c'était un peu aussi pour te suivre. Parce que je trouve qu'il y a toujours un peu ce truc, tu vois, de... Ok, t'as envie d'être un bon père, et en fait, tu vas finir par suivre un peu le flow.
Ouais, carrément.
Et c'est souvent la daronne qui file la direction, quoi.
Mais de ouf. Mais oui, c'est sûr, mais parce que comme toi, ça te prend tôt au trip, tu vois, et ben, t'es tout de suite dans le faire. Genre, et là, il est à quelle étape? Tu sais, t'as des applications où tu sais quelle taille ils font dans ton utérus et tout.
Je sais pas si c'est une bonne chose, ça, tu vois.
Bah écoute, moi, ça m'a fait kiffer.
Ouais.
Mais voilà, okay. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais tu vois, t'es déjà très précocement dans cette projection de « il se passe un truc ». Les papas, ils n'ont pas accès à ça. Ouais. C'est hyper... c'est un peu obscur, quoi, ce qui
déjà,
se passe.
Jamais... Enfin, moi, je me souviens très bien, pendant la première grossesse, je me suis dit « mais je vais... c'est incroyable ce qui se passe pour elle, je vais passer à côté d'une expérience de vie qu'en fait je ne pourrai, quoi qu'il arrive, jamais vivre en fait, en tant qu'humain. Bah, un peu, et en même temps, quand elle a accouché, j'étais là, je suis très heureux que tu sois là et que moi je sois comme un connard à côté en train de tourner à moitié de l'œil, tu vois. Donc...
Ah oui, il y a le pendant de la grossesse et aussi l'accouchement.
Ah oui, oui, c'est-à-dire que vraiment j'étais très détendu avec « Ok, bon, bah, je vivrai jamais ça et en même temps, je vivrai jamais ça. »
Ouais, non, je comprends. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que la temporalité n'est pas la même. Et c'est pour ça que souvent, j'ai l'impression que c'est les mamans qui drivent le truc. Parce que comme on conscientise très tôt, et puis en plus, t'as vu, t'as quand même plein de trucs administratifs à faire très très tôt. Quand tu... Enfin, limite, avant d'être enceinte, faut que tu sois inscrit à la crèche, quoi. Mmh. Faut que tu sois inscrit à la maternité dès le premier mois, alors que
c'est pas
si ça tient.
En région parisienne, ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est un peu moins vrai ailleurs en France.
Ouais. Mmh. Bah, en tout cas, là, moi, nous, c'est ce qu'on vit. Donc, en fait, tu sais, t'es aussi un peu tanné par l'aspect social de... Il y a plein de trucs à faire. Donc, t'es obligé d'investir la grossesse, parce que sinon, t'as deux trains de retard, quoi. Donc, je pense que ça joue. Et moi, je suis partie sur un trip comme ça de surinformation. Alors... Je remets pas ça en question, tu vois. Je pense que vraiment, ça a été aidant. Mais je pense que c'était trop, en fait. C'était trop pour l'entourage. Donc moi, mon mec, il m'a suivi. J'ai voulu faire de l'aptonomie pour mon premier. Bah, on
trop
a fait
bien.
De l'apto. Et c'était aussi pour le mettre dedans, tu vois. Parce que t'es vraiment en communication avec le père aussi. Et
pareil,
donc, on a fait ça.
C'est une petite checklist, quoi.
Ben, même pas, parce que ça, j'en avais pas entendu parler avant. Okay. C'était vraiment chercher ce qui me convenait, quoi.
Ok.
Donc, ouais, c'est même pas vraiment... Alors, moi, je le conscientise pas comme ça. Peut-être de l'extérieur, ça peut paraître checklist, effectivement. Mais je l'avais pas comme ça en tête, en tout cas, tu vois. Et donc, du coup, ben, je suis partie là-dedans. J'ai tracé ma route, tu vois, là-dedans, Et je pense que mon mec était un peu à côté, hyper entourant, bienveillant. Mais effectivement, il n'avait pas du tout le lead là-dessus, quoi. Je sais où je vais accoucher, comment je vais accoucher, mon projet de naissance, c'est ça, bliblablou, tu vois. Ça devait être un peu tendu. J'étais pas du tout pour lui.
Ouais, ouais. Pour le coup, avec le recul, alors je sais pas comment vous avez fait pour le deuxième, mais tu te dis que ça aurait été cool de le co-créer, c'est ça?
Pour lui. Pour moi, je sais pas. Non, mais sérieux, je pense que ça m'a construite.
Ouais.
Et pourquoi je te raconte ça, ce fait d'être surinformée, etc. Parce que ce qui m'a révélé en étant mère, c'est que je suis devenue une personne avec des convictions. Là où j'en avais pas avant. C'est-à-dire que c'est pas que profondément j'avais pas de convictions, c'est que j'avais pas la curiosité intellectuelle d'aller me renseigner. J'avais pas...
Tu veux dire sur toutes sortes de sujets ?
Toutes sortes de sujets. Vraiment n'importe quoi. J'avais pas les épaules pour défendre une opinion. J'étais très caméléon. J'étais quelqu'un d'extrêmement caméléon. Tu vois, j'étais la nana dans la cour d'école qui allait voir tout le monde. J'avais pas forcément un groupe d'amis, j'en avais un, mais j'allais voir, tu sais, tous ceux qui étaient un peu tout seuls, et tu fais quoi, et nanana, tu vois. Et j'étais très caméléon, en fait. J'étais sympa avec tout le monde, tu vois, hyper rigolote, etc. Mais par contre, tu vois, mon mec, il me disait, bah, je sais pas, t'as envie de faire quoi cet après-midi ? Comme tu veux, je te suis. Un peu tout le temps comme ça. Chose qui était pas facile pour lui non plus, hein, parce que d'avoir quelqu'un qui a pas de, tu vois, qui a pas d'avis, c'est un peu chiant, quand même, je pense. Voilà. Mais donc, du coup, je suis passée de cet extrême caméléon à j'ai des convictions et, genre, c'est absolument pas OK de venir à l'encontre de ces convictions. Genre, never. Surtout quand ça touche à mon enfant, c'est mort. Donc, tu vois, le switch là, je pense que c'est.
Ça a dû être hardcore pour lui.
Ça a dû être hyper hard. Il a eu la justesse de pas me le balancer à la gueule.
OK.
Pas du tout. Et c'est moi qui ai dû en prendre conscience au fur et à mesure, tu vois.
Ah, il t'a pas fait de remarques ?
Il a dû m'en faire.
Disons, dis donc.
Ouais, si, j'en ai eu, mais pas du tout véhémente, tu vois. C'était pas le reproche, genre vraiment là, tu saoules. C'était, bah là, t'es peut-être un peu extrême quand même. Enfin.
Surtout que vous étiez ensemble depuis 10 piges.
Ouais.
Enfin, je veux dire. Ouais. Il y a un petit côté, putain, j'avais pas signé pour ça, moi, wesh.
Mais c'est exact. Mais je pense qu'il a dû se dire ça, franchement. Franchement, là, avec le recul, maintenant, je peux avoir ce point de vue-là. Sur le moment, c'était même pas envisageable qu'il me contredise. Genre, t'es mon allié.
T'es avec ou contre moi.
C'est exactement ça. En tout ou rien. Alors moi, qui étais hyper caméléon, j'étais plus du tout nuancée. Donc, je pense que ça a dû être vraiment difficile pour lui.
Incroyable.
Ouais, non, mais c'est chaud, hein. Mais en même temps... J'avais vraiment besoin de ça pour me construire ma propre identité maternelle et justement arrêter de faire en fonction des gens autour de moi.
Ouais,
tu vois.
Okay.
Donc, archi hardcore pour lui. Archi hardcore pour moi quand même aussi, parce que des fois, j'étais dans des états, j'étais là. Mais qui es-tu ? Vraiment ? Mais qui est cette personne ? Non, mais
oui,
lunaire,
j'imagine.
Quoi.
T'as 30 piges, c'est
mais
ça ?
Oui.
Tu t'es construite,
mais
quoi.
Mais oui, oui, a priori.
Bah, enfin,
on va dire que oui.
Oui, bah, en cours en tout cas, mais
ouais,
plus qu'à 20 ans, quoi.
Mais ouais. Et un peu déstabilisant, mais hyper fort. C'était très porteur, en fait, de me découvrir que bah, si j'étais quelqu'un qui pouvait avoir des avis, si j'étais quelqu'un qui pouvait tenir ses avis envers et contre tous, et qui pouvait mettre en œuvre des choses, tu vois. Et en fait, ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'avais aussi des compétences dans ce domaine-là, chose que je ne soupçonnais pas du tout.
Donc, est-ce que, voire même des compétences d'une manière générale, c'est-à-dire que...
Ouais.
D'apprendre un nouveau truc comme ça, j'imagine, qui vient de nulle part.
Ouais.
Où, comme tu dis, quelques mois auparavant, j'étais pas du tout dans le game.
Ouais.
Là, t'as tout bouffé, quoi.
Ah, mais ouais. Ouais, ouais. Bon, toujours dans l'extrême, bah, je suis toujours un peu en tout ou rien. Donc,
oui.
Voilà.
T'as l'impression que c'est un peu le.
Ouais.
C'est la ligne d'édito, quoi.
Clairement.
De Pauline.
C'est clairement ça. J'essaye de nuancer maintenant, tu vois. Mais...
C'est bien, la maturité.
Exactement. Non, c'est beau de vieillir, quand même.
Oui.
Mais ouais, en tout cas, je pense que ça a été difficile pour l'entourage aussi. Hein. Mes parents, ils sont. Ils me regardaient avec des yeux ronds comme des billes. Genre, ah ouais, ok, c'est ça maintenant notre fille ? Très bien. Mais avec beaucoup de bienveillance, tu vois, jamais ils sont venus me dire là vraiment t'abuses de ouf quoi.
T'aurais aimé qu'ils te le disent à un moment donné ?
Non.
Ok.
J'étais pas apte à le recevoir.
T'étais pas
prête. Non. Ils ont pu me le dire après. Mais ils ont attendu que ce soit moi qui vienne pour ensuite pouvoir me dire ouais, c'est vrai que là t'étais un petit peu abusive. Mais ok, tu vois, avec beaucoup de bienveillance, et c'est ce qu'il me fallait.
C'est incroyable.
Non, mais c'est pour ça que je
te rends compte à quel point c'est une chance folle.
Je m'en rends compte de plus en plus.
D'avoir que des gens qui t'aiment autour de toi et qui te laissent juste être dans ton délire pendant que t'es dans ton délire et qui prennent et qui reçoivent et qui juste ne disent rien, ou en tout cas sont juste... Ok, on va la laisser faire.
Mais ma belle famille, pareil. Hein. Et pourtant, ça n'allait pas spécialement dans leurs idées éducatives. Ok, fais comme tu veux. Et nous, on s'adaptera à ce que toi, tu nous demandes. Bon, ça n'a pas dû être facile non plus pour eux. Mais ils m'ont super bien entourée là-dessus. Et ça m'a permis aussi, moi, tu vois, de cheminer, pas par la force des choses, mais parce que c'était mon chemin de pensée. Mmh. Tu vois, j'ai eu vraiment ce temps hyper extrême avec mon fils. Où j'ai allaité, pas accouché comme je voulais, mais c'est pas très grave. J'ai allaité comme je voulais.
On décide pas du tout, tu sais, Pauline.
Non, mais en plus, je suis même pas contrôle fric. Jusque-là, j'y étais pas du tout. Et là, je me suis découverte de ça sort un peu du chemin. Mais ça, c'était pas prévu, en fait. Alors, sur le moment, je le gère bien. Mais a posteriori, je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai que c'était pas ce que j'avais prévu au préalable. Mmh. Mais bon, bref, du coup, j'ai fait ça pendant quand même pas mal de mois avec mon fils. Ça a été dur. Mon mec a quand même fini par me dire à des moments « Non mais là, tu veux tout régenter en fait. »
Ah.
Là, à un moment donné, on n'est pas obligé de faire du parfait. Tu sais, acheter des trucs éducatifs, le stimuler pour faire des trucs manuels, tu vois. Vraiment, le truc réseaux sociaux qui te flingue le cerveau, quoi. Mmh. Un peu trop.
Faites attention, hein, les darons.
Ouais.
N'oubliez pas de choisir ce qui est bon aussi pour vous.
Ouais.
Et de ne pas être dans la perfection parfaite. Elle n'existe pas de toute façon. Et croyez-moi, en tant que parent d'ado, tôt ou tard, vous allez le reprendre dans la gueule.
J'ai pas hâte, tu vois.
Donc, non, et c'est pour ça aussi, je trouve que c'est cool de faire tout ça pour ton enfant et pas pour ta pomme. Mm. Parce qu'en fait, si t'attends en retour quoi que ce soit...
Oh, purée.
C'est en même temps un comportement normal humain, quoi, tu vois, de dire non, mais je donne tout, tu vois, et je sacrifie beaucoup, et machin, et en fait, mais en échange de ça, je vais être un super parent.
Bah ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, faut pas attendre la reconnaissance de l'enfant directement, tu vois, ça c'est pas possible.
Jamais, les gars.
Bah, tu vois, à 30 ans, je peux dire à mes parents, tu vois, j'ai pu leur dire, parce que ça y est, je l'ai conscientisé, que franchement, la plus grande chance qu'ils m'avaient donnée dans la vie, c'est d'être les parents qu'ils ont été, et de m'avoir accompagné, tu vois. Donc, à un moment donné, on a un peu de reconnaissance quand même.
Oui, mais faut pas le faire pour ça.
Ben non.
Si t'attends quoi que ce soit.
C'est clair.
En tout cas, je crois que j'attendais trop. Je suis là. Eh bien, ça va prendre.
Eh ouais, mais ça, c'est la vie, réalité de parents.
C'est mon chemin. Tout va bien. Ok. À quel moment t'as senti qu'il fallait peut-être revenir vers la Pauline d'avant et peut-être retrouver un juste milieu par rapport à.
Je l'ai récemment.
Ok.
Récemment, ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est la vie, elle vient et je la suis. Mmh. Le confinement arrive pour le Covid. On l'a super bien vécu. On a eu la chance d'avoir un confinement vraiment chouette.
Parce que 2 ans et demi, ta fille, elle était enceinte.
Eh ben, du coup, je suis tombée enceinte pendant le confinement.
All right.
Bébé surprise.
Surprise.
Oui. Bébé surprise. Et un peu déstabilisant, mais tu vois, je me suis posé la question en me disant, attends, je voulais pas d'enfant.
Comment on fait un bébé surprise en 2020?
Eh ben, on fait je prends pas de contraception depuis plus de 15 ans, en fait, parce que tu vois, au niveau hormonal, c'est pas ouf.
Ok.
Donc potentiellement bébé surprise si tu surveilles pas ton cycle, c'était pas hyper, tu vois. On mettait pas forcément de protection ou quoi que ce soit, donc. Voilà.
Alors sachez-le, pour tous les gens qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, la méthode du retrait n'est pas une méthode de contraception.
Ouais.
La preuve. Ça ne marche pas. Si vous vraiment ne voulez pas d'enfant, les capotes, hein, ça marche bien.
Non mais du coup, était-elle si surprise que ça, je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, bah voilà. Donc sortie de confinement, je suis enceinte de ma fille. La question s'est posée pas très longtemps. De savoir si on gardait ce bébé ou pas.
Ah ouais.
Ça a duré peut-être une journée.
Ok.
Tu vois, le temps d'accuser la surprise. Et voilà. Et donc, du coup, ça a tout changé. Tu vois, j'ai eu la grossesse pour le premier. Grossesse idyllique, maternité idyllique, ça roulait, l'allaitement s'est bien passé, mon fils se développe bien, machin, etc. Vraiment, vraiment la relou, quoi. Tu vois, la maman relou, vraiment. Et là, je tombe enceinte de ma fille. Grossesse pas difficile en soi, mais difficile émotionnellement. Mon fils avait du coup 14 mois quand je suis tombée enceinte.
Ah, je croyais qu'ils avaient 2 ans d'écart. Ah oui, oui, ok.
Ouais,
oui,
quand je suis tombée enceinte. Okay. Et en fait, gérer un petit être non autonome et être enceinte dans ce second être, bah franchement, c'est sportif de ouf. Mmh. Et surtout quand tu l'avais pas spécialement planifié, entre guillemets, où c'était, ben, tu t'es pas rendu compte en fait de la charge que ça pouvait être. Donc,
je crois que tu t'en rends pas compte.
Non, faut
même
être dans
si,
le dur.
Même si tu le planifies.
Ouais, faut être un peu dans le dur avant de s'en rendre compte. Mmh. Mais où là, j'étais chiante, mais chiante de ouf pendant cette grossesse. Déjà, j'étais malade, alors que j'étais pas malade pour la première. J'étais irritable avec mon fils, mais de ouf. Tu vois, vraiment, tu sais, le truc un peu épidermique, tu vois, de s'il me touchait, je l'allaitais toujours pendant que j'étais enceinte. Et tu vois, ça devenait vraiment hyper épidermique. J'étais très intolérante à ce qu'il pouvait faire, dire, etc. J'étais pas méchante dans les faits, mais au niveau sensation, c'était très désagréable.
Ah ouais?
Ouais, trop bizarre.
Ça a dû te faire bizarre.
Mais bah, pareil, j'ai encore switché, tu vois. Non, mais vraiment, dédoublement de personnalité. Enfin, ça doit être. Non, mais là, tu vois, en parlant, j'étais en train de me dire, mais l'entourage, ils vont se dire, mais ça y est, elle a lâché la rampe, la pauvre, quoi. Enfin, elle est passée d'une personnalité à une autre, à encore une autre, ça devait être hyper dur. Bref.
Comment ça se passe avec tes 42 personnalités
Écoute, la plupart du temps, on se met d'accord. Franchement, ça passe. Mais c'est vrai que des fois, on se dispute un peu, quoi. C'est un peu compliqué. Mais ouais, du coup, cette grossesse, j'étais vachement irritable, fatiguée, enfin, comme aussi quand t'as un premier, hein, enfin, quand t'as un enfant et que t'es enceinte d'un deuxième. L'avantage que ça a eu, c'est que du coup, mon fils et mon mec, qui étaient déjà très proches, sont devenus fusion ultime.
Ah.
Ouais, franchement, les deux, ils ont une relation de dingue, et encore maintenant, parce que moi, j'étais moins dispo. J'étais moins apte, tu vois, à être dans l'écoute, à être oui, ok, je gère mes émotions, bliblablou. D'ailleurs, spoiler alert, c'est une connerie. Hein. Ayez des émotions en étant parent. Ne masquez pas vos émotions. Ça ne les aide pas du tout.
Ça n'aide pas les émotions, tu veux dire ?
Ça n'aide pas l'enfant.
Ça n'aide personne.
Non, ça n'aide personne a priori, mais si on le fait dans le but d'être bienveillant avec l'enfant, c'est pas une bienveillance que de faire ça. Donc, mais bon, des fois, il faut cheminer pour s'en rendre compte.
Bah oui. Tu m'étonnes.
Ouais. Et donc, du coup, bah, pareil, switch, je suis devenue assez irritable, très insupportée par les trucs autour de moi, etc. Et je suis restée un peu comme ça, finalement.
Encore aujourd'hui ?
Encore un peu aujourd'hui.
Okay.
Avec moins, mais tu t'en parlais tout à l'heure, un peu de l'abnégation, tu sais, de faire abstraction de soi. En fait, je pense que le switch, c'est pas tant que je suis devenue irritable, c'est que je suis devenue une personne autre que juste une maman. Là où avec mon fils, j'étais dans le don de soi total, mes émotions passaient après, mes besoins passaient après, enfin tu vois, dans l'excès encore une fois, bref. Et ben là, je me suis recentrée aussi sur mes propres besoins à moi, ce qui fait que bah ouais, j'étais pas tout le temps hyper joyeuse, hyper douce, etc. Mais en fait, c'était ok. Franchement, c'était ok.
Trop bien, hein, alors que ta fille a 2 ans et demi, c'est ça tu disais Bien ouais, Jean. Il y a des femmes pour qui ça arrive à 55 ans, quoi.
Ouais, mais...
Ah putain, je suis plus qu'une mère. Je suis pas finalement qu'une mère, je suis aussi une femme. Let's go.
Bah ouais, mais tu vois...
C'est chaud, hein, à cet âge-là.
Le job que je fais, je pense que c'est ça aide. Tu vois, les deux, en fait, les deux communiquent vachement. La vie perso et la vie pro, là, en tout cas, dans mon travail à moi, vraiment, c'est glissant. C'est glissant parce que ce que je construis dans ma vie de maman... Je construis ma vie professionnelle en parallèle. Et ce que je construis dans ma vie professionnelle, ça me donne
ça
vachement
nourrir.
De billes dans ma vie de maman. Donc, c'est une richesse infinie, mais vraiment.
Dans quel sens, en fait, tu dirais que ça vient nourrir ton activité professionnelle? Et donc, t'as des exemples en particulier? Des trucs que t'as ramené, entre guillemets, de ton cabinet dans ta vie de maman?
Ce que je ramène le plus, c'est la prise de recul. Tu vois, c'est pas tant des techniques, c'est pas tant des... connaissances, même si forcément t'en acquiers, c'est vraiment le pas de côté que tu fais pour observer ce que tu es et ce que tu fais. Et en fait, ça, c'est le pouvoir, tu vois, de pouvoir juste se dissocier de l'instant, un moment, et d'être dans le raisonnement et pas dans l'émotion. Alors, faut pas tout intellectualiser non plus, ça c'est un peu le piège, mais d'avoir ce recul.
Un bon équilibre, en tout cas.
Ouais, mais ça, c'est le truc. L'équilibre dans toutes les sphères de la vie, c'est quand même le truc le plus dur. Mais tu vois, par exemple, quand j'accompagne des familles avec des jeunes enfants qui ont des problématiques un peu communes, tu vois, de bah ouais, il y a des étapes dans la vie de l'enfant qui sont un peu hardos pour les parents, ben c'est ok. Et là, quand je fais le parallèle avec ce que moi je vis, parce que j'ai des enfants presque du même âge, tu vois, quand je reçois ces familles, je me dis, mais en fait, c'est normal. Et je vais dire à ses parents que c'est normal. Pourquoi moi, j'intériorise pas toujours que c'est normal dans ma famille? Et tu vois, de me nourrir de l'expérience et de la compassion que j'ai acquérie pour les parents que je reçois, que je n'avais pas avant. Et en même temps, de me dire, bah ouais, mais ce que eux vivent, c'est aussi la réalité de plein de familles, mais c'est aussi la mienne. Donc, ok, tranquille à la maison, détends-toi aussi, tu vois. Ne sois pas justement dans le faire parfait. Mmh. Voilà. Vraiment, il n'y a même pas de sens. Les deux se nourrissent en permanence. Ouais. Et, mais c'est d'une richesse extrême. Ça fait des nœuds au cerveau, clairement, mais c'est d'une richesse sans fin.
Pourquoi ça fait des nœuds au cerveau?
Parce que...
J'ai au contraire plutôt l'impression que c'est plutôt fluide.
C'est fluide, mais intérieurement, c'est quand même le bordel. Tu vois, avec mes 42 personnalités, il faut quand même que chacun donne son avis. Et c'est un peu chaud il faut faire comme ça. Mais dans la vraie vie, je suis dans l'émotion, donc je ne peux pas tout gérer. J'ai mes besoins qui passent avant, mais en même temps, c'est des enfants, des petits êtres qui ne sont pas encore autonomes. Donc, je me dois de les mettre en sécurité au niveau émotionnel.
Bien sûr.
Et en fait, tu sais, tu switches comme ça tout le temps. Et en plus, c'est ce qui se passe dans ma tête. Mais encore une fois, je ne dis pas toujours mes connaissances. Je ne les dis pas toujours à mon conjoint. Donc moi, tu vois, ça me paraît hyper fluide.
Ah ok, c'est ça, tu... oui.
Et lui, il me regarde avec des yeux ronds comme des billes. Putain, mais t'as encore mis un tableau de routine en place, t'as encore fait ci, t'as encore fait ça. Tu m'as même pas demandé, tu vois. Tu m'en as pas parlé. Et là, il me dit ça, je dis, c'est pas faux.
C'est Canon qui te le verbalise.
Ouais, faut creuser un peu. Faut ramer avant d'avoir l'info, mais c'est bien qu'il me le dise.
Faut ramer avant qu'il te le dise, tu
ouais,
veux dire.
Ouais, c'est pas... Ah, ouais, okay. Ça demande de...
Parce que...
D'avoir un temps, tu vois, dédié.
Oui.
Messieurs, communiquez, mais mesdames aussi.
Ben, ouais, et puis surtout, prenez votre place, quoi. C'est, pour moi, c'est ça le truc le plus dur, c'est que j'ai l'impression que t'aimes bien faire les choses désormais,
ouais.
Que t'es là-dedans, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que, et là je vais parler de moi, c'est que moi je me suis j'étais avec une femme qui faisait ça, et c'était canon, parce que ça m'a... faciliter la vie de ouf. Mais avec le recul aussi, je sais que... Alors, j'ai jamais voulu prendre cette place, mais je l'ai jamais conscientisé. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus, tu vois. Mais ça m'a coûté avec le recul. Et en fait, avec le recul, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que j'irais la voir tout de suite en lui disant « Alors certes, ça me facilite la vie et merci beaucoup. Mais en fait, là, t'es en train de prendre toute la place.
Ouais. »
Et merci parce que, encore une fois, tu fais le taf et c'est incroyable. Mais en fait, j'aimerais bien en prendre un bout. Comment je fais? Et ça, j'y suis venu beaucoup trop tard. Et c'était déjà trop tard, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était déjà. Elle m'a vraiment dit: mais frérot, t'es en train de me foutre le bordel dans mon organisation. J'étais là. Ah! Alors que je viens juste pour aider, moi, à la base. Hein.
Ok, désolé, je m'en vais.
Bah, c'est ça.
Bah, non, mais oui.
Tu préfères dire: je veux pas déranger, moi, alors.
Ouais.
Mais en fait, quand tu veux pas déranger, tu ne prends aussi pas ta place, quoi.
Ouais.
Et bah, ça finit par... C'est marrant parce que sur le forum de Mademoiselle à l'époque, il y avait vraiment des... Il y avait un forum, enfin, il y avait un sujet de femmes enceintes et tout. Et en fait, les nanas passaient leur temps à râler contre leur mec qui faisait rien. Et moi, j'arrivais de temps en temps comme un connard en disant... Et juste, comment ça se passe, vous, en termes de prise de place par rapport à tout ça?
Parce qu'en fait... T'as dû te faire fusiller.
Ah, mais je me suis tiré dessus, mais bien sûr, c'est évident. Et je comprends en plus, parce qu'elles étaient juste dans... Bah putain, il fout rien en même temps.
Ouais.
T'es là, bah ouais, mais on... comment ça se passe?
Ouais. Mais ça, tu
c'est
sais quoi?
C'est dur, hein, c'est super dur.
Mais c'est dur, mais ça se construit dès l'enfance. Parce qu'en fait...
Pour moi, dès les premières semaines, en fait.
Mais...
C'était les premiers jours.
Mais oui, mais dès l'enfance pour le papa, mais même dès l'enfance des futurs papas que seront nos enfants, tu vois? Les futurs papas, futures mamans.
Incroyable.
Mais vraiment, tu vois, moi, j'en parle beaucoup avec les parents, de quand ils me disent, ouais, je veux que mon enfant soit autonome. Ok, bah déjà, c'est quoi l'autonomie pour vous? Est-ce que vous le laissez faire? Est-ce que vous le laissez expérimenter? Si vous ne le laissez pas expérimenter, il ne l'acquérera pas, en fait. Que ce soit de l'émotion, que ce soit de la manip, que ce soit de l'autonomie d'habillage, peu importe.
Est-ce que tu le laisses se tromper?
Est-ce que tu le laisses? Est-ce que tu es à côté de lui pour le guider, l'accompagner plutôt? Ou est-ce que tu es devant en lui faisant la carotte, tu vois? Et ce n'est pas du tout la même posture.
Ouais.
Mais en fait, si on arrive à leur laisser cette place-là petit, il y a des chances qu'ils puissent prendre cette place-là plus grand aussi, tu vois?
Bah oui.
Ouais, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, tu vois? Mais je me dis. C'est quand même hyper délicat de dire à une nana qui est pleine d'hormones, qui vient d'avoir un gamin, pardon, mais laisse-moi faire, en fait. C'est sûr que tu vas te prendre un fusil de chasse dans la tronche, c'est obligé, tu vois. Et en même temps, c'est vrai que si tu le fais pas, si tu vas pas chercher cette place-là, c'est normal qu'on te la laisse pas.
Bien sûr.
Mais franchement, c'est d'une difficulté, cette situation. Je voudrais pas être papa, tu vois, pour le coup.
Bah moi, j'ai une anecdote que j'ai déjà racontée, je crois, dans l'histoire de Daron, mais peut-être pas dans l'histoire de Daron, c'est que... je me suis retrouvé... Premier jour, on rentre de la maternité. Donc la petite Lina, elle a genre quelques jours. Et en fait, sa mère me demande d'aller chercher un truc à la cuisine. Je reviens avec un truc sur deux, d'accord ? Et elle me dit « Ah, t'as un truc sur deux ». Je suis « Ah putain, merde, pardon, j'y retourne ». Et elle dit à sa fille, qui a vraiment genre trois jours, « Eh ben ça, c'est papa, tu vois. Il déconne et tu vois, il oublie toujours un truc sur deux ». Et moi, je fais le... En faisant le chemin, j'entends ce truc et je me dis « Il y a vraiment un truc qui déconne ». Et je suis revenu la voir et je lui dis « Tu sais, j'aimerais juste bien que tu... prennent conscience qu'en fait, quand t'es en train de dire ça, t'es aussi en train de vous mettre, de la mettre dans ton camp, entre guillemets, qu'en fait, t'es en train de me mettre de côté. Et en fait, si tu fais ça, très vite, je te promets, moi, je vais juste me mettre devant ma console de jeu et je vais te laisser faire, parce qu'en fait, si tu veux être une super maman, tu vas être une super maman. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience-là, mais vraiment genre instantanée. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que je crois que de ce fait-là, dans les premières semaines, les premiers mois, j'ai pu prendre ma place. Ça a été moins simple à tenir après par la suite parce que c'est du taf en fait. C'est pas parce que tu arrives à prendre ta place à un moment donné que tu arrives à. En fait, que après, c'est mis en place. Hein. Ça bouge sans arrêt quoi. Donc, faut taffer.
Faut taffer et faut expérimenter en fait. C'est vraiment les automatismes, tu vois. Il faut faire et faire et refaire et refaire avant que ce soit fluide. Mais encore une fois, cette histoire de congé paternité, merci.
Ah bah oui.
Voilà. Mais en fait, si t'as plus d'expérience, si t'es plus là, t'acquires plus vite et du coup, tu prends plus ta place.
Et puis surtout, bah, il faudrait que ce congé soit obligatoire et qu'il soit exactement de la même durée pour les pères et pour les mères. Il y a encore du taf sur le sujet.
C'est fou. On espère qu'on va avancer vers du mieux, clairement.
Tu disais que t'étais renée au tout début.
Ouais.
En fait, j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que femme, de devenir mère ?
Je crois que ça m'a apporté un peu tout, en fait.
C'est
mais,
beaucoup, hein.
Mais sans avoir eu l'espoir d'avoir tout ça, tu vois, donc sans pression. C'est-à-dire que juste, c'est arrivé. Juste, j'ai reçu ça comme des cadeaux et ça m'a... Mon conjoint m'a permis de prendre le temps de maturer tout ça, tu vois. Ben, vraiment, ce que ça a changé, c'est que je suis devenue une personne qui s'écoute, qui arrête de faire en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres, qui fait en fonction de ce qui me fait plaisir, qui a appris à dire non, qui se lance dans l'inconfort, tu vois. Je donne des formations, je fais des conférences, etc.
Tu faisais pas avant ?
Je faisais avec moins de confiance en moi, tu vois. De changer de taf parce que ça me convenait plus et c'était plus ce qui me rendait heureuse. Ça m'a fait devenir une personne qui a des convictions et qui pouvait porter des convictions en étant un peu moins extrême, tu vois, de pouvoir aussi quand même écouter l'autre en retour. Ça m'a apporté de me découvrir en fait des compétences que je ne pensais pas avoir, comme bah voilà, comme vraiment porter des choses, avoir des projets, porter son envie, son besoin, ne pas se laisser trimballer et vraiment, ben ok, je suis pas d'accord, mais c'est ok de pas être d'accord et on peut en discuter, sans que ça me crée un stress de ouf. Parce que tu vois, s'il y avait un seul truc un peu difficile avec mes parents, c'est la gestion du conflit. C'est-à-dire qu'on se barre, mais on se barre loin. Tu vois, on voit un petit truc qui va créer du conflit.
Vous l'esquivez.
Ah, mais alors on l'esquive 8000, tu vois. Et ben ça, c'est un truc qui m'a permis de développer cette compétence-là, que j'apprivoise encore, tu vois. C'est pas encore très fluide.
Parce qu'on est bien d'accord que esquiver le conflit, tôt ou tard, ça finit par faire grossir le conflit.
Ah non, mais c'est nul. Non, mais c'est improductif au possible. Sur le moment, c'est vraiment sur le moment à court terme, ça t'apporte un confort, mais sur du long terme, ça t'apporte un inconfort plus grand. Donc c'est un très mauvais plan, clairement. Mais tu vois, vraiment plein de petites compétences comme ça qui font que je me sens plus entière et je me sens plus moi, avec plus de défauts, moins lisse, tu vois. Parce qu'avant, j'étais plus lisse, puisque j'étais tout le temps le smile, tout le temps souriante, ça allait toujours, tout en faisant des maladresses en plus, parce que tu vois, de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, à un moment donné, c'est pas jouable.
C'était un masque, on est d'accord.
C'était... Non, je pense que c'était l'absence de se poser des questions.
Ok.
C'est vraiment se laisser porter. Alors, ça rajoute de la complexité, c'est-à-dire que maintenant, se poser des questions, ça fait que... Tu vois, ça tourne un petit peu dans la tête. Mais c'est cool. C'est cool. Et du coup, j'ai repris goût à mon travail, là où je trouvais que c'était chiant à mourir. Et ben, j'ai des projets, ça m'anime, j'ai juste envie de réfléchir tout le temps et de me laisser porter. Et en fait, vraiment, c'est en ça où je suis renée, c'est que je suis toujours la même personne avec les mêmes bases de... Ben, je suis toujours plutôt positive, plutôt souriante, plutôt, j'espère, agréable, tu vois. Enfin, j'espère pour avec les gens que j'aime. Mais par contre, c'est OK de ne pas être OK. Et c'est OK de ne pas prendre toujours la même direction. Et j'ai envie de voir personne, mais j'ai envie de voir personne. Et en fait, ça ne va pas entacher mes relations, tu vois. C'est OK si je l'explique. Bon, le chemin est encore long, mais...
En tout cas, c'est cette base
ouais.
vers laquelle tu veux aller et vers laquelle tu te sens bien.
Ah bah, et clairement, c'est en ça où je me dis, mais la maternité, ça a tout révolutionné. Mmh. Mais tu vois, ça révolutionne aussi un peu le couple, hein. Et ça, c'est un peu plus chaud à gérer.
Tu veux en parler ?
Ben, ouais, c'est vraiment... bah, tu vois, avant, comme j'étais caméléon, je suivais mon mec partout, tu vois. Mais pas petit chien dans le sens vraiment aime-moi.
Oui, oui.
Mais dans le sens, c'est OK pour moi, tout me convient. Bon bah là, quand tout ne te convient plus, recevoir ça en face, c'est chaud. Parce que c'est du tout ou rien. Mmh. Encore une fois, Jean-Michel extrémiste, tu vois. Et du coup, ben, faut se rééquilibrer. Mais se rééquilibrer quand t'as deux êtres supplémentaires dans la vie, quand moi je suis hyper, hyper investie dans mon travail et du coup je suis peu à la maison, je suis saturée de charge mentale très facilement. Enfin, alors moi je suis quelqu'un qui supporte pas la charge mentale. Donc, bah, c'est qui la priorité ? Moi, ensuite mes enfants, c'est factuel, ce n'est pas ce que je vis vraiment, hein, mais ce qui peut laisser transparaître. Mon taf, et après si j'ai encore un peu d'énergie, mon mec en fait. Mais ça c'est pas OK. En vrai c'est pas OK. Mais juste il faut le temps, tu vois, de le mettre à plat et que lui il puisse me dire, mais en fait tu m'as oublié, je suis où là ? Dans le truc. Et de switcher avec tout ça, t'es là, OK, c'est trop pour moi. Je vais aller faire une retraite yogi au fin fond de l'Auvergne pendant 15 jours et je veux voir personne, tu vois. Donc ouais, l'équilibre du couple, il est tellement changé. Et si t'as pas l'espace d'en parler, et si t'es pas dispo, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais si t'aurais aimé qu'on me dise, dans les premiers mois de vie de mon fils, t'abuses un peu là, t'es un peu extrême. Ben non, parce que j'étais pas apte à le recevoir à ce moment-là. Et la patience que tout le monde a eue d'attendre que je sois accessible pour recevoir ça, et en fait, c'est le meilleur cadeau qu'ils m'ont fait.
Ah ouais.
Parce que ça m'a permis de, moi, conscientiser les trucs. Et que quand ils m'ont envoyé les infos avec bienveillance, j'étais là, OK, mais à coup de pas, j'avoue, j'ai abusé.
Le piège de ça, c'est que tu finisses par jamais être accessible jusqu'au moment où c'est trop tard pour l'autre.
Mais ouais.
Et que l'autre dise, eh bien, c'est ciao. Ça m'a cassé les couilles jusque-là.
Cet équilibre, il est... Mais il est improbable. Franchement, ça demande une confiance dans ton entourage, que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou ta famille. Ça demande vraiment aussi qu'on te fasse confiance, tu vois, de te dire, OK, on peut te laisser, on peut se permettre de te laisser partir dans tes trucs parce qu'on sait qu'on va te récupérer à un moment donné. Mais ça demande un équilibre de dingue.
Moi, mon conseil, bon, qui nous a amené au divorce, mais finalement, en vrai... C'est pas ce conseil-là qui nous a amené au divorce, c'est juste nos chemins se sont séparés et se sont séparés de façon plutôt cool. C'est vraiment un dîner toutes les semaines, dès le plus rapidement possible. En fait, si vous avez un peu d'argent à investir dans une babysitter, si vous n'avez pas d'argent, faites en sorte de faire garder votre môme par des amis, des machins, si vous avez des services à demander, mais un dîner ensemble en dehors de la maison. Ou alors à la maison, mais sans télé, sans machin, juste à parler de vous et à débriefer sur comment ça se passe entre vous. Franchement, ça nous a bien aidé, nous.
Ouais. J'admire les gens qui arrivent à faire ça.
Mais en fait, faut le faire. C'est-à-dire que juste, tu vois, notre vendredi soir, c'était le vendredi soir. C'était pour nous deux, pour notre pomme.
Mais tu vois, moi, quand je repense à comment j'étais la maman de mon fils, là, petit, mais déjà le
comment
maître...
j'étais la maman de mon fils.
Mais oui, parce que...
toujours...
Bah oui, mais je ne suis plus la même maman maintenant. Encore une fois, tu vois, ça a évolué au fur et à mesure du temps. Mais quand je me revois, tu sais, comme si j'étais une autre personne et que je revois de l'extérieur, tu vois, même mettre mon fils dans les bras de quelqu'un d'autre, c'était hyper difficile pour moi. Pas parce que je n'avais pas confiance en l'autre, parce que je sais que ma famille était apte, tu vois, parce que ça me faisait flipper qu'ils ne se sentent pas suffisamment bien. Et que moi, j'étais la seule qui pouvait lui apporter le suffisamment bien, tu vois. Non, mais c'est fou, hein.
C'est beaucoup, hein.
Alors déjà, c'est beaucoup de pression,
oui.
Clairement. Et puis, c'est beaucoup
d'abnégation.
C'est-à-dire,
ouais. En permanence, il faut que ce soit juste toi.
Exactement. Bah oui, non, mais autant te dire que c'est pas tenable dans le temps. Merci à ma fille de s'être nichée au creux de moi en cours de route, parce que j'aurais pu me perdre là-dedans, à mon avis. Hein,
ah
tu
ouais
vois. Ouais, ouais, je pense que vraiment, elle a fait la bascule, tu vois.
Et ton mec, à l'époque, par rapport à cette relation fusionnelle, tu lui faisais confiance pour le coup? Il avait de la place?
Je pense que si tu posais la question, il serait peut-être pas du même avis.
Ouais. Tu viens quand tu veux dans mon podcast.
Écoute,
j'ai un podcast de daron, c'est fait pour.
Ouais, non, mais je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas débriefé. Mais tu vois, quand tu parles de ça, de se garder du temps, mais tu m'aurais proposé de me garder mon fils à même 3 mois de vie. Non, peut-être aller avant. À 1 mois et demi de vie et aller au resto, je t'aurais dit, ah mais non, pas du tout en fait, ça c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Mais c'était moi, hein. C'était pas lui
oui.
Ni mon mec, c'était moi, tu vois. Et c'est hyper dur d'étendre ce lien. Tu vas pas le couper, mais l'étendre avec la distance. Et en plus, qu'est-ce que tu fais quand t'es jeune parent et que tu te retrouves tous les deux? Tu parles de quoi?
Bah justement, faut se forcer.
Ah, mais tu parles de ton môme, en fait.
Non, faut se forcer à parler de soi. À parler de soi individuellement, mais aussi du couple, quoi.
Mais tu vois, encore cette
relation.
Histoire de préoccupation maternelle. Tu vois, il y a vraiment un biais psychologique qui fait que tu ne peux penser qu'à ça. C'est pour ça que tu vois, demander aux mamans de retourner au taf 2 mois et demi après la naissance de leur enfant, tu m'étonnes qu'elles reviennent te voir en tant que psy en te disant « je remets tout en question, je suis pas heureuse au taf, je suis pas heureuse à la maison ». Bah normal les gars, enfin, là toi t'es encore en mode survie pour ton enfant.
Oui.
Comment c'est possible?
Bon, après moi je parle vraiment d'une soirée de 2 heures, hein. Calmons-nous.
Non mais je me remets
c'est
dans la peau.
C'est pas pareil que de revenir dans... Putain, revenir dans ce train-train, dans la routine quotidienne et tout, si t'en as pas envie, parce qu'il y a des femmes qui sont trop heureuses d'y retourner et pour qui il y a de l'épanouissement.
Mais moi, j'ai vécu les deux trucs.
Ah ouais?
Tu vois, mon fils, mes enfants avaient la même date de naissance normalement. Ils devaient naître le même jour. Et en fait, ils sont nés à 7 jours de différence. Et du coup, moi, j'ai repris, tu vois, le même rythme de reprise de travail, etc. Bref, mon fils, j'étais là. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas retourner au travail, c'est l'enfer, je veux rester avec mon fils. Moi, non. Tu vois, c'était hyper, hyper dur. Ma fille, j'étais là, ok, c'est ok. J'ai eu le temps qu'il me fallait, je suis trop contente de retourner au taf. Et c'était exactement la même temporalité, puisque c'était les mêmes mois, même temps de reprise, etc. Mais par contre, pas vécu du tout de la même façon, tu vois. Comme quoi, enfin, c'est vraiment un des moments de vie.
Ouais.
C'est pour ça que c'est ouf.
C'est en fonction de tes personnalités différentes.
Aussi. Purée, j'espère que je le switch pas trop vite, parce que sinon, pour les gens, ça doit être hyper chaud.
Ce sera peut-être l'occasion de leur en parler.
Écoute, je vais leur dire, je suis désolée.
Je vous envoie un podcast, j'aimerais bien qu'on débriefe.
Dites-moi à quelle personnalité vous avez affaire là tout de suite maintenant, que je puisse les lister et qu'après on se mette d'accord.
J'ai une dernière question pour toi.
Ouais.
Non, avant ça. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Non. Non, je crois que...
Parler de plein de choses.
Ouais. Ouais, puis en plus, je suis hyper bavarde, donc je peux en parler pendant des plombes.
C'est super. C'est exactement pour ça que t'es là, donc franchement, t'excuses pas. Donc ouais, dernière question. Si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que t'as envie de leur dire?
Kiffez votre vie, les gars. J'espère que vous kiffez ce que vous faites, où vous êtes et avec qui vous êtes. J'espère, je leur souhaite ça vraiment.
14 et 12.
Ouais, maman.
Oh, purée. Je suis pas prête du tout.
Fous-moi la paix.
Non, mais tu sais qu'à 4 ans aussi, hein, ils se sont déjà.
Bah oui.
Tu sais, quand ma fille de 2 ans et demi, je lui dis, mais tu sais, elle me dit, maman, c'est mon corps, je fais ce que je veux.
Oh, waouh.
T'es là.
Mon corps, mon choix.
Effectivement, tu n'as pas tort.
À 2 ans et demi?
Ouais.
Waouh, cette génération.
Ouais, je pense que la 2, là, tu vois, j'espère que ça va passer avec douceur.
Ou pas.
En vrai, je compte sur le fait que j'ai pas fait de crise d'ado. Que j'espère qu'ils en feront pas des trop vénères.
Comment ça se passe quand on fait pas des crises d'ado en tant que neuropsy?
Ça se passe bien.
Non, mais ce que je veux dire, comment ça se passe dans le cerveau quand t'as pas fait de crise d'ado? Tu le sais pas?
T'as peut-être pas besoin.
Tu crois?
Ouais. Je suis pas experte des ados. Là, je te parle avec mon.
Moi, j'avais vu un TED qui disait qu'en fait, l'adolescence était un moment hyper important pour le cerveau parce que ça permettait aux synapses de péter et d'ouvrir des nouvelles portes en fait. Et que la crise d'ado, souvent, servait à ça, en fait, tu vois. De juste dire, j'en ai marre, je vais tout péter.
Vous êtes que des cons, de toute façon, je vous aide plus.
Bah écoute, rendez-vous à 40 ans pour ta crise d'ado, alors.
Yes. Oh purée, j'en ai déjà fait, là, en étant devenue maman, qu'est-ce que ça va donner?
Un peu, ouais, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu de ça.
Bah, tu vois, faire la crise d'ado, c'est au moment de la maternité.
C'est Clémentine Sarlat qui parle de la matrescence. Il y a un peu de ça, quoi.
J'adore son podcast.
Ouais. Clémentine Sarlat qui est dans un bon délire de daronne.
Ah, bah ouais. Bah ouais.
Tu viens quand tu veux, Clémentine. Je sais que de temps en temps, t'écoutes l'histoire de daronne. Je vais déjà te proposer. Merci beaucoup, Pauline. C'était incroyable. C'était super cet épisode.
Merci à toi.
J'ai adoré cette discussion. J'espère que ça va aider plein de gens. Plein de futures mamans, plein de mamans qui sont dedans. Merci pour ton recul aussi. Merci pour ton humour. Merci pour tout ça. C'était trop chouette.
Ouais, c'était très cool. Merci à toi.
Et pour les gens qui voudraient venir te consulter, comment ça se passe?
Je consulte à l'Institut de la parentalité, dans le 77. Que ce soit moi ou mes collègues, n'hésitez pas. C'est okay. Des super ressources. Et il y a même des choses à
dire. Si tu veux, je peux mettre un lien. Je mettrai un lien si tu veux.
J'ai un site internet, mais sinon, le site de l'Institut, c'est bien, je pense. Le site
tu
de
préfères
l'Institut. Ouais, mais parce qu'il y a plein d'autres interlocuteurs vraiment importants. Okay. Et il y a des ressources à distance pour les parents.
Okay.
Avec des groupes de parents.
Ah ouais.
En visio, qui peuvent être un peu partout en France.
Okay.
Et à l'étranger.
Trop bien.
Et c'est un vrai point d'appui pour même les parents qui vont bien, mais qui se posent des questions.
Oui.
Vous avez le droit d'y aller.
Souvent, ils écoutent.
Bah ouais. Venez.
Merci beaucoup, Pauline.
Merci à toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.